Vous écoutez France Culture.
Réplique, l'histoire de France a-t-elle encore un sens ? Avec Patrick Boucheron et Pierre Nora. Une nation est une âme, un principe spirituel, affirmait Renan dans sa fameuse conférence de 1882, « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et il ajoutait « Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage individu. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. La nation comme l'individu est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement, le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. » Quelle que fût leur origine, les Français, selon Renan, étaient les continuateurs et donc les héritiers de la France. Cet héritage national, l'école républicaine s'est longtemps donné pour mandat de le transmettre. L'enseignement de l'histoire y était d'abord l'enseignement de l'histoire de France. En témoigne le petit manuel d'Ernest Lavis que les éditions des Équateurs ont eu la bonne idée de remettre en circulation. J'ai feuilleté ce livre avec sa typographie et ses illustrations d'époque, et j'ai tiré de cette plongée dans la République d'avant une première question que j'adresse aux historiens Pierre Nora et Patrick Boucheron. Qu'avons-nous fait de la vis ? L'avons-nous actualisé ? Où avons-nous définitivement tourné la page ? L'histoire de France est-elle encore à l'ordre du jour de la recherche et de l'enseignement ? Pour le dire dans la langue charmante et désuète de notre instituteur national, l'histoire proposée aux Français raconte-t-elle encore les événements accomplis sur la terre de France depuis les temps les plus reculés jusqu'à ceux où nous vivons ? Pierre Nora.
Oui, non, il est bien évident qu'aujourd'hui, la vis est totalement dépassée. C'est même d'ailleurs ce dépassement qui m'avait tellement surpris en lisant, il y a près de 50 ans, pendant la guerre d'Algérie, à Oran, son manuel, qui m'avait intéressé à lui. Et j'avais eu une espèce de stupeur de voir, au moment où on était dans les djebels en train de se battre, le petit Lavis affirmait... que dans l'Algérie pacifiée, nos missionnaires, nos administrateurs, nos explorateurs apportaient le bien-être et le bonheur. Et c'est cette différence justement qui m'avait stupéfait. Alors pourquoi est-ce que ça n'est plus du tout valable ? C'est très simple. Ce roman national, je mets l'expression entre guillemets, que l'on peut attribuer à la vis de représenter, d'avoir organisé. Il représentait plusieurs choses. D'une part, une réconciliation de l'ancienne France et de la nouvelle, problème complètement dépassé. Il représentait une France rurale, complètement dépassée. Et autonome, aujourd'hui, c'est totalement dépassé. Une France qui ne se posait aucun problème à l'époque sérieux de population extérieure et d'immigration, c'est complètement dépassé. Une France qui s'écoutait elle-même et qui ne doutait pas de la mission qu'elle pouvait apporter précisément au monde entier. Alors tout cela, je dirais, c'est une France de l'État, puisque c'est ce petit, enfin, l'histoire à l'époque était profondément liée à une inspiration de type étatique. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que ce roman national, comme tout roman, se terminait bien. Le petit Lavis et le grand Lavis, puisque c'est le même homme qui a écrit ce petit manuel pour enfants et cette grande histoire qui est devenue en 27 volumes la Standard édition, se terminait avec la guerre de 1918, c'est-à-dire une happy end, comme tous les bons romans. Or, aujourd'hui, que voulez-vous, ces jeunes générations, elles n'ont connu qu'une France de la défaite depuis 1940. D'autre part, ce petit manuel, la vie, ça avait un sens parce qu'il racontait une histoire qui menait les Français quelque part et leur expliquait qu'ils venaient de quelque part. Aujourd'hui, l'incertitude sur l'avenir est telle que c'est une autre problématique.
Pierre Nora, je vous entends bien, mais vous dites « tout est dépassé ». Un certain nombre de choses sont dépassées. Et en effet, la France d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle d'hier ou d'avant-hier. Reste que celle d'hier ou d'avant-hier mérite quand même d'être enseignée. Et moi, quand je feuillette ce tout petit manuel, je suis content de l'avoir sous les yeux parce qu'il restitue une continuité, il y a des dates, il remet les choses en place pour moi. Alors c'est pour ça que je vous demande...
La plus belle édition, si non. J'ose dire, parce que celle sur laquelle, avec une corne d'abondance, il est marqué au-dessous, petit Français, tu aimeras la France parce que la nature l'a faite belle et que son histoire l'a faite grande.
Oui,
c'est
une formule admirable.
Mais elle est plus adaptée aujourd'hui.
On peut actualiser la vie, on peut ajouter une dimension critique qui lui manque certainement. Mais pourquoi, au nom de la France d'aujourd'hui, faudrait-il aussi
répudier la France d'hier ? Il faut pas la détruire, mais il faut réinventer autre chose. Mais bien entendu, l'histoire de France n'est pas du tout dépassée elle-même, si la vie l'est. Elle est même, je dirais, plus nécessaire que jamais. Elle est indispensable, cette histoire, ne serait-ce que justement pour donner un sentiment collectif à la population. Le problème, c'est de savoir comment la faire, cette histoire.
Patrick Boucheron.
Oui, c'est pour ça que actualiser la vis, c'est au fond une drôle d'idée. Le lire, assurément, et le lire comme Pierre Nora le lit, c'est-à-dire en l'historicisant. Au fond, cette exigence qui est nouvelle dans les années 1870, qui consiste à faire de l'enseignement de l'histoire une catéchèse de la communauté nationale. Elle est aussi strictement contemporaine, à ce moment-là, de l'histoire méthodique. C'est-à-dire qu'en même temps, et il faut comprendre les deux, en même temps, évidemment, l'école que l'on n'appelle pas positiviste, que l'on appelle méthodique, parce que l'histoire, ce n'est rien d'autre qu'une méthode, eh bien, enseigne aussi la science des documents. Et donc, dès lors, à partir de 1870, l'enseignement de l'histoire, elle est déjà dans une tenaille. C'est-à-dire qu'elle doit apprendre la communauté d'appartenance et en même temps apprendre l'esprit critique. C'est une pensée critique, l'histoire, fondamentalement. Et voilà pourquoi. Oui, pardon.
Pardon, non.
Non, allez-y.
Non, je disais, c'était l'axe des humanités.
Voilà.
C'est-à-dire que le problème d'apprendre aujourd'hui l'histoire de France est au cœur d'un problème plus vaste. Comment apprendre l'histoire ?
L'histoire tout court.
Tout court.
L'histoire tout court. Oui, et de ce point de vue-là...
Dans un monde qui peut se dire, est-ce que c'est utile ou pas utile ?
Il y a, oui,
les mathématiques,
mais,
ça l'est.
Oui, c'est vrai,
mais
encore une fois... Donc, c'est aussi une science des textes et documents, ce n'est pas pure propagande. Alors, pourquoi pensez-vous que actualiser la vie, c'est une si drôle d'idée, Patrick Boucheron ?
Eh bien, parce qu'on peut poursuivre l'effort critique, mais certainement pas sur le même ton. Certainement pas sur le même ton, parce que, comme le dit effectivement Pierre Nora, le ton, ce qu'on appelle roman national, au fond, il faut quand même dire les choses clairement. Ce qui pose problème aujourd'hui dans cette expression, c'est pas national, c'est roman. C'est-à-dire, c'est une histoire orientée, c'est une histoire qui a une finalité, et c'est une histoire qui s'écrit, je dirais, dans l'allure d'un grand récit. Et d'une certaine manière, on ne gagnera pas à faire un roman européen ou un roman mondial. Le problème, c'est roman. Et donc, d'une certaine manière, ce qui a le plus vieilli, je dirais, dans la vie, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le lire, Alain Finkielkraut, mais d'une certaine manière, le lire, c'est le réactualiser. C'est ça, un classique. C'est un classique. Ce qu'il y a de plus daté, c'est le ton, c'est-à-dire c'est l'allure générale d'un récit qui ne peut plus aujourd'hui satisfaire à, ni à l'une ni à l'autre de ces exigences contradictoires que menait l'enseignement de l'histoire.
Alors, je vais directement mettre les pieds dans le plat. Vous avez dit l'histoire n'est pas un roman, ni l'histoire comme recherche, ni l'histoire comme enseignement. Vous avez parlé de catéchèse à propos de la vie, s'il y a en effet quelque chose comme un endoctrinement idéologique, ce que vous montrez très bien, Pierre Nora, dans votre livre « Recherche de la France ». Mais voilà, dans un article que vous avez publié pour le débat de Dominique Borne, intitulé « Quelle histoire de France enseigner ?» Voici ce qu'écrit Dominique Borne. Pour tenir compte de la nouvelle réalité française. Quand on entend dans les banlieues décrire un voyage vers Paris comme une virée chez les Séfrans, quand on entend les voix qui dans les cours de récréation opposent des Gaulois blancs aux Rebeux, qu'entend-on sinon l'expression du malheur d'être exclu aux portes de l'histoire ? On ne peut entrer dans la cité que si l'on appartient d'une manière ou d'une autre aux grands récits qui la fondent. Racontons ces grands récits intégrateur. L'histoire de France doit désormais faire place à ceux qui en sont aujourd'hui exclus. Relisons Ricoeur, l'histoire soigne les mémoires blessées. D'où son idée de faire commencer l'histoire de France par Marseille. Alors moi, je vous dis...
Ne caricaturez pas.
Oui, il le dit. Je vous dis, donc, il y a eu, si vous voulez, l'endoctrinement idéologique du patriotisme à tendance nationaliste. Je me demande si un endoctrinement ne veut pas en remplacer un autre. L'endoctrinement diversitaire. On change d'orthodoxie, mais pour employer les mots de Orwell, on change d'orthodoxie, on change de disque, et l'esprit reste réduit à l'état de gramophone. Qu'a-t-on à y gagner, Pierre Nora ?
Il ne faut pas trop caricaturer l'article de Borne. Dominique Borne montre bien que la dynamique démocratique de l'histoire de France a été fondée sur la rivalité, compétition et complémentarité de deux types d'histoire de France. Une histoire providentielle qui plonge à partir du baptême de Clovis, se poursuit par la monarchie, Louis XIV, et reste aujourd'hui, même jusqu'au lendemain de l'action française, une sorte d'histoire providentialiste fondée sur une espérance de restauration, d'une certaine façon. Et puis il y a une deuxième histoire de type républicaine, dont le moment capital est évidemment la Révolution française, mais qui du coup commencerait à Vercingétorix, continuerait par l'expansion des communes, etc., etc. Et que ces deux types d'histoires qui ont fait la dynamique profonde du roman national sont toutes les deux épuisées. Ce qui me paraît évident, et qu'il faut trouver autre chose pour effectivement répondre aux besoins d'une population pour laquelle, encore une fois, l'histoire est un apprentissage inutile. Ça ne veut pas dire du tout que le passé, d'une certaine façon, ne soit pas présent dans la psychologie et la mentalité des jeunes générations, mais elle l'est d'une façon totalement différente. Alors, il cherche, et d'une façon un peu provocatrice, il dit après tout pourquoi ne pas commencer par Marseille plutôt que par les Gaulois, parce que les Gaulois veulent rien dire aujourd'hui. Nous sommes tous nos ancêtres, les Gaulois, est effectivement une formule qui, là encore, quand je l'apprenais moi-même en Algérie à des petits musulmans, me paraissait un peu bizarroïde. Ce qu'il faut dire,
c'est une projection, d'un roman actuel, parce que Marseille n'est pas tout à fait ce qu'il a l'air de dire, sur le passé ancien de la France.
Oui, mais par exemple, il fait remarquer à un moment donné que les rapports avec l'Algérie ou que l'Algérie dite française datent d'avant la France, avant le rattachement de Nice et de la Savoie à la France. Autrement dit, le rapport à l'Algérie, d'une certaine façon, a été encore plus intime et plus lent. Et donc, faire comprendre cette intimité du rapport Algérie-France aux enfants n'est pas idiot.
Patrick Boucheron.
Dans ce numéro du débat, je pense qu'il faut effectivement débattre, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il y a un diagnostic, et ce diagnostic, j'aimerais qu'on puisse le discuter. Il est difficile d'enseigner l'histoire. Oui, certainement, l'anglais, les mathématiques, il ne me semble pas que les professeurs sautent de joie dans la rue en disant comme c'est facile. Pourquoi c'est difficile d'enseigner l'histoire, et est-on certain que c'est plus difficile aujourd'hui d'enseigner cette discipline historique qu'une autre ? J'en suis pas certain. Après tout, il y a effectivement quelques témoignages, mais ils sont toujours aléatoirement choisis ou de difficultés, mais combien aussi d'enseignants qui innovent, combien d'expériences pédagogiques. Moi, j'en parle d'autant plus volontiers que, si vous voulez, je suis professeur d'université. Donc, je ne fais pas confiance à mes souvenirs d'enfance et encore moins à ce que je peux savoir, moi, en tant qu'enseignant, parce que je suis historien, j'enseigne l'histoire. Donc, ceux qui sont au collège et au lycée sont mes collègues, mais ils n'enseignent pas dans les mêmes conditions.
Et
je ne
pas dans les mêmes conditions.
Je ne l'oublie jamais.
Bouchon,
je ne
l'oublie jamais. Mais vous avez lu ou entendu parler des... Les rapports, le rapport Aubin et les rapports du Haut Conseil à l'intégration qui témoignent d'une difficulté particulière dans l'enseignement de l'histoire et notamment dans l'enseignement de l'histoire de France. Et on a le sentiment quand même qu'il s'agit d'apaiser un public particulièrement rétif en lui disant que finalement la diversité est... consubstantiel à la France. Je cite ici Jean-Paul Demoule, professeur de proto-histoire européenne. Il faut arrêter de penser qu'il doit être une France éternelle, à l'identité immobile, que l'arrivée récente de populations extérieures viendrait bousculer. Sur le temps long, on voit les choses autrement. L'histoire est un long continuum de brassage. Elle est une recomposition permanente.
Oui, ça, ce n'est pas discutable. On ne peut pas faire une histoire de la France préhistorique, par
non,
exemple.
Mais ça, d'accord, c'est ça, c'est indiscutable. Qui... Voilà. Mais,
parce que l'histoire, c'est l'histoire.
Mais Foucault, vous écrivez...
Il y avait Mitterrand pour la faire, parce que au moment de l'inauguration du millénaire de la découverte de Lascaux, il était à dire, voilà, c'est la France.
Non, déjà d'accord, la France. Nous le savons, mais il projette l'histoire, la proto-histoire sur l'histoire plus récente. Vous écrivez, Pierre Nora, qu'en effet, aucun pays n'est composé d'autant de pays, de peuples différents, de réalités physiques différentes, de forces hétérogènes que la France, bien sûr. Mais ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, dans la nouvelle catéchèse qui s'instaure à la place du récit patriotique, c'est que l'immigration est insignifiante en France entre la fin des grandes invasions et, disons, le dernier tiers du XIXe siècle avec l'afflux des Belges, des Polonais, des Italiens. Et
les
c'est dans cette période-là que la France... En quelque sorte, que la France s'est épanouie, que s'est constitué l'essentiel de la civilisation française. Et c'est comme si, pour ne blesser personne, aujourd'hui, on ne le disait pas, on le passait sous silence.
C'est vrai, il faut pas quand même se focaliser sur ce problème, parce qu'il est bien évident que l'histoire de France est à offrir à ceux qui viennent en France et dont l'avenir est en France. Et par conséquent, c'est une certaine histoire de France qu'il faut avoir dialectiquement la possibilité de leur donner ou de leur offrir. Mais encore une fois, le problème d'une France devenue puissance moyenne, intégrée dans un pluralisme européen, envahie moins par l'immigration que par la mondialisation complète, exige, c'est vrai, une forme d'histoire et d'adaptation. Vous ne pouvez plus, de la même façon, commencer l'histoire de la Chine avec le break-up of China, le dépècement de la Chine à partir de 1840. Vous ne pouvez pas commencer l'histoire de l'Afrique avec sa Borgnon de Brazza. Ce sont des continents entiers qui sont entrés dans la mondialité réelle et consciente. Et donc, c'est très difficile pour un programme d'arriver à brasser une histoire du monde qui, centralement, était une histoire française jusque et dans le concert des nations européennes jusqu'à un certain temps, et qui maintenant est ouverte. L'histoire de France n'a jamais été que l'histoire de la France, c'est une évidence.
Non, bien sûr.
C'est une évidence. Mais aujourd'hui, elle est effectivement sommée, en quelque sorte, d'assumer une histoire beaucoup plus mondiale et mondialisée. Et Dieu sait que Boucheron en sait quelque chose, puisqu'il a beaucoup réfléchi sur cette ouverture des frontières à une histoire monde.
Oui, mais nous aurions grand intérêt, comme vous le dites justement, à distinguer, pas parce que ce sont deux mondes opposés et hermétiquement clos, au contraire, mais les distinguer tout de même, l'enseignement et la recherche. Car nous parlerons peut-être effectivement des promesses de l'histoire monde ou du renouvellement de l'histoire de France, parce que l'une et l'autre sont deux approfondissements historiographiques. Mais il faut dire aussi calmement que l'histoire qui s'enseigne aujourd'hui, dans les collèges et les lycées, ça reste majoritairement l'histoire de France.
Tout à fait.
Et que, contrairement, et ça, effectivement, le numéro du débat l'a quand même posé. C'est-à-dire qu'il y a eu une très bruyante campagne médiatique sur « on veut casser l'histoire de France » parce qu'il y avait eu deux malheureuses doubles pages dans les manuels de 5e qui, à un moment, parlaient un peu d'autre chose, des royaumes africains, de Monomotapa ou de Songhai, mais majoritairement, oui. Aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Le massif reste le même.
Et ce n'est pas en assénant agressivement le contraire que ça finira par
venir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'esprit tend aujourd'hui à être complètement changé. C'est évident que l'histoire traditionnelle à la vis était quand même une histoire où on se projetait dans les grands hommes et dans les grands événements, et que l'histoire aujourd'hui a été très largement remplacée par une inspiration sur les droits de l'homme, sur par conséquent une victimisation générale au lieu d'une histoire épique et héroïque. Et l'exemple de la guerre de 14-18 dont on va commémorer le centenaire est typique à cet égard. Jusque dans les années 1960, le poilu était un héros, pour tout dire, et aujourd'hui, il est une victime. Nivelle est aujourd'hui certainement passible d'un crime contre l'humanité. D'ailleurs, ça ne me choquerait pas personnellement à la limite, pour avoir à ce point... fait décimer les Français.
Mais
bien sûr, je ne dis pas ça. Mais quand on voit quand même la monstruosité qu'a été la guerre de 14-18, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une sorte de haut le cœur. Mais c'est vrai qu'à partir des années 60, les héros de la guerre de 14 eux-mêmes ont chuté et l'esprit de victimisation, tous les Français, enfin tous les poilus apparaissent plutôt comme des victimes, ce qu'ils étaient aussi, que comme, disons, des héros.
Mais alors, d'ailleurs, c'est ce que dit Dominique Byrne aussi dans l'article.
Et il y a une tendance fâcheuse, même dans l'enseignement supérieur, à une sorte de dénigrement systématique au nom d'une contre-histoire et d'un rétablissement de la vérité anti-légendaire. L'affaire d'Aiglières, aujourd'hui, en est assez typique de ce livre, de cette...
Sur le maquis d'Aiglières.
Sur le maquis d'Aiglières.
Oui, alors, et c'est ce que dit d'ailleurs Dominique Byrne, donc le patriotisme devenu ringard, il fallait remplacer l'histoire par la morale. On fait la morale à la place de faire de l'histoire. Mais vous avez dit, Patrick Boucheron, que l'histoire est quand même enseignée, et quand même essentiellement l'histoire de France. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai sous les yeux un manuel d'histoire-géographie de 5e. Il s'ouvre sur les fondements de l'islam. Pages 8 à 29, et ce qui est dit de l'islam, disons, est fait pour, visiblement...
Mais ça, c'est un assez gros problème.
Ne blesser personne. Les califes créent de grandes bibliothèques dans les villes où ils rassemblent des livres de la Grèce ancienne, de Perse ou d'Inde. Au contact de la science grecque, les savants font progresser les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la géographie. Des poètes écrivent des poèmes d'amour, des fables et des contes comme ceux des Mille et une nuits.
Bah, c'est pas faux.
Oui, c'est pas faux, sauf que quand il est question du fanatisme, ou de la conquête, ou de l'impérialisme, eh bien, c'est de l'Église que l'on parle. Et il y a, dans les chapitres qui suivent, eh bien, un petit encadré sur un interrogatoire de l'Inquisition d'un hérétique au bûcher.
Oui, mais vous venez de passer, nous sommes à la radio, donc je peux donner les images, vous venez de passer une double page sur François d'Assise, qui n'est pas au vitriol.
Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble qu'on enseigne aujourd'hui l'histoire en fonction de plus en plus de la composition ethnique de la France contemporaine, ce qui n'a pas été vrai avec les anciennes vagues d'immigration.
Non, c'est inexact. Permettez-moi de répondre un peu tranquillement sur le manuel de 5e, puisqu'il s'agit du programme de médiéval et que je suis médiéviste, pour ouvrir pour définir ce que c'est que l'époque médiévale, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de déterminer ce moment comme celui de l'expansion de l'islam. C'est un fait. Oui, mais... Et c'est aujourd'hui comme cela qu'on définit la période médiévale, comme le moment où l'islam, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas. Et ce n'est pas parce que ça plaît ou que ça déplaît à certains que c'est plus ou moins vrai. De toute façon, ce n'est pas le même islam. Mais de fait, à ce moment-là, l'islam est le vecteur de la modernisation du monde. C'est ainsi.
C'est un fait, mais le fait est aussi, et je ne pense pas que Pierre Nora me démentira, que l'Europe s'est constituée face, et c'était quand même quelque chose comme un choc des civilisations, face à Byzance, face aux Sarrasins et aux Maures d'abord, puis face à l'Empire ottoman, et je me demande dans quelle mesure il sera possible d'en parler, et si effectivement on n'insistera pas davantage sur l'expérience andalouse que sur cette naissance-là conflictuelle de l'Europe.
Eh bien, je pense que votre opposition entre histoire nationale et histoire mondiale est factice, puisque l'histoire mondiale telle que nous tentons de la pratiquer quelques-uns, notamment autour de cette histoire du monde au XVe siècle que j'ai eu l'honneur de diriger en 2009. Dans cette histoire du monde, les civilisations ne s'entrechoquent pas davantage qu'elles se métissent. Elles sont simplement des mondes qui sont parfois cloisonnés, parfois décloisonnés, dont on fait l'histoire tranquillement.
Et les sièges de Vienne, vous en faites quoi ?
Pourquoi croyez-vous que nous...
Mais
ce que j'attends, Alain Finkielkraut, de l'histoire, ce ne sont pas des injonctions morales. C'est simplement une méthode pour construire des savoirs.
Mais bien sûr.
Que l'histoire soit parfois glorieuse, parfois moins, ça ne me pose personnellement aucun problème.
Il
n'y
a aucune injonction morale. Moi, c'est l'exactitude factuelle qui m'importe. Oui,
pour ne pas nous focaliser simplement sur un problème, mais parler d'un problème qui, lui, est aussi essentiel et qui est celui des faits et de la chronologie. Là où vous avez raison, Alain Finkielkraut, c'est que la tendance à la moralisation finit par raboter complètement l'histoire et l'engrenage de l'histoire. Je vous en donne un exemple. Dans le manuel de première, les manuels de première, vous avez généralement un grand chapitre sur les horreurs quotidiennes de l'expérience combattante. Et la guerre est elle-même, au fond, moralisée, si j'ose dire, par cela. Et vous n'avez rien, je crois, sur le traité de Versailles, qui empêche complètement à ce moment-là de comprendre chronologiquement l'engrenage qui va mener à la Seconde Guerre mondiale. Alors là, vous avez un problème global d'enchaînement des récits, de respect d'une forme chronologique que les jeunes générations ont tendance à gommer, parce que probablement pour une simple raison que l'histoire s'est tellement accélérée depuis les années 60 du siècle dernier, que tout le passé a d'une certaine façon été mis dans le même sac, un peu comme juste après la Révolution française, tout l'Ancien Régime et des 10 siècles étaient mis sur le même plan, mis sur le même sac et déchronologisé. C'est l'histoire tout entière qui tend à être déchronologisée, qui tend à être victimisée, qui tend à être moralisée. Et effectivement, à partir du moment où l'histoire est pavée de crimes permanents, c'est pas la peine de l'étudier. Et le vrai problème, enfin un des vrais problèmes, c'est de retrouver une forme de chronologisation et d'apprendre cette chronologie aux enfants.
Mais là, nous sommes parfaitement d'accord. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que lire avec passion les manuels scolaires, alors là, pour le coup, c'est une passion d'éditorialiste, parce que, franchement, les enseignants qui sont au travail, justement, de leur classe, vous savez qu'ils font un usage très distant et des manuels et, justement, des réglementations académiques. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'enseigner aujourd'hui, c'est d'une certaine manière enseigner contre l'institution. Et ça a toujours été ainsi. Et c'est pourquoi moi j'ai beaucoup de mal à, ici, au micro d'une grande radio, faire la leçon à ceux qui sont justement en responsabilité de travailler, qui font comme ils le peuvent. Certains très bien. Bien sûr que c'est un métier difficile, que c'est un métier individualisé, mais en même temps, Internet, justement, que vous n'aimez pas beaucoup, Alain Finkielkraut, mais là, permet de mettre en commun des expériences. Et vous savez très bien qu'en réalité, l'enseignement tel qu'il est pratiqué, il est beaucoup plus chronologique. Il est beaucoup plus méthodique que ne le laisse croire une lecture d'Emmanuel.
Oui, mais moi, je ne lis pas les manuels avec passion. Je les regarde, je les lis et je me pose des questions. Mais comme vous, je fais tout à fait confiance aux professeurs. Mais alors là, en même temps, j'ai en tête une polémique à laquelle je n'ai absolument pas participé, qui concernait les professeurs du supérieur, autour du livre de Sylvain Guggenheim, qui portait donc Aristote au Mont Saint-Michel, et selon lequel il y avait en effet une continuité, en quelque sorte, selon lequel l'hellénisation de l'Europe est avant tout le fait de la volonté des Européens eux-mêmes. Il a été très critiqué, un livre est paru, collectif, Les Grecs, les Arabes et nous, dans lequel il est dit que, justement, nous devons nous définir non seulement comme Grecs, mais nous devons pouvoir dire que nous, les Arabes, pas moins, dans la mesure où, précisément, toute notre relation avec le monde arabe doit passer par la reconnaissance de cet héritage oublié. Ce « nous, les Arabes » m'a fait quand même réfléchir. Et je me suis demandé, là encore, si l'ère du temps n'exerçait pas sur les historiens, qui ne sont pas des idéalistes, une pression irrésistible. Parce que cette phrase n'a strictement aucun sens. Elle témoigne de bonnes intentions, d'une ouverture qui semble aller, d'une kénose qui semble aller jusqu'à l'anéantissement de soi dans l'autre. Je ne suis même pas sûr qu'elle aboutira à la paix souhaitée, mais quel que soit le rôle des grands savants musulmans dans la transmission de l'héritage grec, ce « nous, les Arabes » n'a de signification qu'idéologique.
Alors, permettez-moi de répondre au niveau intellectuel et culturel élevé qui est vôtre. Oui, bien sûr, un des gros problèmes, et c'est de cela dont nous parlons, un des grands problèmes de l'histoire, au fond, c'est l'historien est-il autorisé à dire « nous quelque chose ». Nous les Latins, nous les Arabes, nous les Grecs. Bon, c'est un problème très sérieux. Je me permets, j'ai tenté d'en parler dans un livre qui s'appelle L'Entretemps et qui tente de comprendre ce que ça pourrait être qu'un nous historien qui ne se limite pas effectivement à une appartenance à ce que Pierre Nora, parlant de Michelet, appelle l'hystérie identitaire. Permettez-moi une autre, par exemple, une lecture. Romain Bertrand, L'histoire à parts égales, qui est ce livre, pour le coup, d'histoire du monde, tel que aujourd'hui il permet de comprendre pourquoi ça intéresse les gens, que ça il y a un vrai public et que cela permet de comprendre, au fond, aussi des choses essentielles sur l'identité. C'est l'histoire l'expédition hollandaise à Java en 1598, et on la suit, justement parce que ça permet aux rats de l'interaction, de faire baisser les majuscules de l'histoire. Donc ce n'est pas l'Orient et l'Occident qui se confrontent, il n'y a pas un choc de civilisation, il y a juste une situation concrète, et c'est absolument passionnant et c'est absolument captivant. Et ce que produit cette lecture du livre de Romain Bertrand, c'est que les cartes de l'étrangeté et de la familiarité sont battues. C'est-à-dire que nous partons comme si nous étions hollandais, parce que chrétiens, etc., et que les Javanais, c'était les autres. Mais à la fin, au fond, on se rend compte que ces commerçants néerlandais, ils ne sont pas plus familiers que ces princes javanais. Et au fond, enseigner l'histoire, oui, je pense que c'est effectivement enseigner la construction des identités, l'étrange familiarité qu'on peut avoir avec des mondes lointains, ou apprendre aussi à être étranger de nous-mêmes. Voilà quel est le « nous » que construit l'histoire, qui est cette méthode critique liée au document.
Oui, enfin, je serais peut-être vous déplacer un petit peu là, peut-être le problème. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais sur l'affaire Guggenheim, sur laquelle je ne me prononcerai pas parce que c'est une affaire d'érudition qui me dépasse totalement, il y a eu une empoignade idéologique évidente, il me semble, peut-être de part et d'autre. D'ailleurs, je n'en sais rien, je ne veux pas les renvoyer aux ados, mais enfin, il y a eu un investissement supérieur à ce que la science représentait et qui était d'ordre fortement idéologisé. Et on en a souvent des exemples, encore une fois. C'est vrai.
Ça dit quelque chose du rapport que nous voulons aujourd'hui, confrontés que nous sommes aux défis de l'actualité, que nous voulons aujourd'hui entretenir avec notre passé. Parce qu'après tout, la thèse selon laquelle les Européens se sont aussi hellénisés tout seuls, elle est peut-être contestable. Elle n'est pas forcément ignoble. Elle devient ignoble dès lors qu'il s'agit précisément de faire de l'islam une composante de notre identité. Et cela,
c'est
un effet de l'immigration sur la France.
Je pensais pas utile de revenir sur cette affaire, mais alors d'un mot, la question, c'était que ce livre était un pamphlet islamophobe maquillé en livre savant, et les savants ont aussi une responsabilité qui est de regarder les notes de bas de page, de vérifier quelle est l'administration de la preuve. Et aujourd'hui, ce qu'on attend de l'histoire, ce n'est pas seulement un récit, ce n'est pas seulement des bonnes intentions, c'est qu'elle exhibe les conditions de possibilité. Et donc, le travail qui a été fait, c'était de ramener ce livre à ses intentions idéologiques.
Bien, alors nous fermons cette parenthèse. Oui, Pierre-Marc.
Autrement dit, si vous voulez, pour simplifier à l'extrême, schématiser, l'histoire de France, disons, a-t-elle encore un sens, vous faire dire, tout ce qui est élargissement, ouverture, inclusion, curiosité mondiale ou d'une histoire comme celle que Romain Bertrand fait sur un autre monde et nos rapports avec lui, etc. Tout ce qui reste exposé dans les catégories d'une histoire scientifiquement admise. Supposant des preuves, des documents, un récit, une critique et une organisation, tout cela entendu, il faut le faire et on le fait. Et ça se fait. Là où effectivement Alain Finkielkraut pointe quelque chose qui est tout à fait exact, c'est lorsque cette ouverture, ce sentiment se retourne en une sorte de négation ou d'agression, ou de volonté d'effacement d'une histoire dont la nation est le centre, mais qui n'est pas que la nation, c'est l'Europe tout entière, et où ça devient une histoire à la fois anti-européenne, anti-occidentale, et je dirais à la limite anti-historique, tout simplement, dans la mesure où l'histoire elle-même est peut-être, sous les formes dans lesquelles nous le pratiquons, une invention de l'Europe et de l'Occident. Voilà. Là, il y a un problème qui n'est plus du tout celui de l'enseignement. Autrement dit, là, nous avons dans notre émission, me semble-t-il, mélangé deux choses. Enfin, elles se mélangent. Le problème de l'enseignement d'une histoire de France qui est lié à l'usure d'un sentiment républicain, du roman national classique, et puis l'ouverture à une histoire monde qui, elle, est liée à la diminution de puissance de la France, à son insertion dans l'Europe, à l'arrivée de la mondialisation et à une histoire qui se fait plus, pour une fois, dans le monde anglo-saxon et américain, peut-être parce qu'ils ont moins d'histoire nationale et que nous en avons une très forte à défendre. Là, il y a au fond deux problèmes qui se recoupent, mais seulement partiellement, et qui posent chacun leur ordre de question.
Mais justement, Patrick Bouchon, moi, il me semble qu'il s'agit aujourd'hui, en quelque sorte, de pulvériser ce que l'histoire de France peut avoir de spécifique, de le dissoudre pour, en quelque sorte, aligner la France d'hier sur celle d'aujourd'hui, ainsi espère-t-on résoudre un certain nombre des problèmes du vivre ensemble. Voilà pourquoi tout à l'heure, je m'inquiétais de voir votre... une catéchèse en remplacer une autre.
C'est je aussi la nôtre. Je comprends que c'est votre inquiétude, mais voilà, permettez-moi de... Pardon.
Bon, je vous en prie. Je vous en prie. Non, je voulais dire, c'est en effet une difficulté de garder cette spécificité. Simplement, je ne crois pas qu'on puisse la garder par une simple conservation ou une forme de restauration impossible. Voilà, il faut garder cette spécificité et il faut le montrer.
Il ne s'agit pas de restaurer le passé, il s'agit de le connaître.
Mais le connaître, bien sûr. Mais encore une fois, l'histoire de France se porte très bien, il faut le dire. Éditorialement, elle se porte très bien. Il y a deux manières d'écrire l'intérêt du public, des livres d'histoire qui sortent. Il y a effectivement un intérêt pour l'histoire du monde, c'est vrai. Mais il y en a un qui est tout aussi vif pour l'histoire de France, avec de belles entreprises éditoriales. Je pense à l'histoire de France Belin, à l'histoire de France qui est relancée au Seuil. Le dernier numéro des Annales donne la parole à un historien américain, justement Stephen Sawyer, sur écrire l'histoire de France, où il montre bien que, justement, les trois premiers livres, il ne parlait que des trois premiers, dans la nouvelle histoire, sous la direction de Johann Chapoutot à l'univers historique, eh bien, restitue une histoire mondiale de la France, c'est-à-dire une histoire où le Second Empire est un empire et qui n'enlève rien à la spécificité de l'histoire de France.
Alors,
c'est simplement une histoire telle qu'on peut l'écrire aujourd'hui.
Aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui. Mais, Lavis disait, vous le citez Pierre Nora dans votre livre, « Notre passé vit au fond de notre être pour composer notre tempérament national ». Alors, on tourne la page aujourd'hui, mais il y a eu une histoire de la civilisation française, d'auteurs que vous avez bien connus, Duby et Mandrou. Et il la présente ainsi, « Comprendre le sens d'une évolution millénaire et l'intime solidarité des faits culturels qui ont, au long des siècles, donné à la France ses traits originaux ». Voilà, donc il me semble qu'on est quand même un peu dans la même tonalité. Or, je lis... le rapport de Thierry Thiot, un conseiller d'État, oui, mais justement, c'est intéressant. C'est un conseiller d'État, c'est pas n'importe qui. Sur l'intégration, il fustige la célébration angoissée d'un passé révolu d'une France chevrotante et confite dans des traditions imaginaires. Et il dit, l'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. N'est-il pas influencé précisément par cette nouvelle histoire qui nous dit que cette civilisation française, c'est du vent, quoi. Ce n'est pas vraiment quelque chose de substantiel.
Je vous fais remarquer que ce rapport Thiot a été mis à la poubelle, si j'ose dire. En tous les cas, presque, puisqu'il n'a même pas été publié par le gouvernement, et que est à la tête du gouvernement quelqu'un, aujourd'hui au moins, qui parle plutôt histoire de France tout en étant catalan.
Est-ce qu'on écrirait une histoire de la civilisation française aujourd'hui de la même façon là, que Duby et Mandrou, par exemple?
Vous dites qu'elle n'est pas substantielle. Ben non, parce que ce n'est pas une essence.
Oui, non, mais
parce que ce n'est pas une essence.
Oui, ce n'est pas substantiel, mais c'est consistant. C'est ça que
mais
je veux
évidemment
dire. Et c'est peut-être distinct.
Mais bien sûr, de même que voilà, l'histoire de la civilisation médiévale de Jacques Le Goff, on en a célébré. Mais écoutez...
De la même façon. On ne la fera pas de la même façon. Écoutez, ce que je n'ose pas trop il me vient, pardonnez-moi l'immodestie de ce que je vais vous dire, mais quand Le Goff, dont je salue la mémoire, avait rendu compte des lieux de mémoire qui sont complètement consacrés à la France, il avait commencé en disant « ce n'est pas une histoire de France, mais c'est l'histoire dont la France a aujourd'hui besoin ».
Je me souviens très bien de votre interview pour les 30 ans de la revue L'Histoire, excellente revue, où vous disiez justement cela, c'est-à-dire que les lieux de mémoire, c'était une manière de déconstruire l'histoire de France. Vous étiez dans la reconstruire. Vous étiez dans la discontinuité de Michel Foucault, elle reconstruit une histoire de France, mais qui est différente, qui a un autre sens.
Discontinue.
Alors justement, ce mot discontinue m'intéresse. Ça, c'est très bien. Oui, non, mais c'est parfait parce que la discontinuité, c'est un des concepts que Michel Foucault avance, notamment dans l'archéologie du savoir. Il dit, on considérait ça comme une sorte d'obstacle. Eh bien non, c'est devenu un concept opératoire, il faut en finir avec cette espèce d'idée métaphysique d'un sujet qui se déploierait dans le temps. Et je pense, moi, à ce que disait aussi bien Ortega y Gasset que Simone Veil, parlant d'un droit fondamental de l'homme qui est le droit à la continuité historique. Il donnait en exemple les Anglais, disant « ce peuple circule dans tout son temps ». Donc, est-ce que ce droit à la continuité historique, pour les historiens que vous êtes, réclamé donc aussi bien par Ortega y Gasset que Simone Veil, a encore un sens ?
C'est très difficile la question que vous posez. Dans l'identité malheureuse, vous dites « on perd le fil ». Et de fait, un historien n'aime pas perdre le fil, de même qu'un enseignant n'aime pas que ses élèves le perdent. Mais on peut construire une continuité historique qui ne soit pas essentialiste, justement, qui ne fasse pas de la civilisation française une substance. On peut effectivement, par saut et gambade, construire un récit historique qui ne soit pas un roman. Je vais dire les choses très simplement. Les historiens écrivent toujours avec les moyens de la littérature de leur temps. Et donc, Lavis écrivait un roman comme le grand roman réaliste de son temps. On ne peut pas faire comme si il ne s'était pas passé des choses, y compris sur le plan littéraire, philosophique, culturel. Et donc, pardonnez les historiens, ils ont une bibliothèque, Alain Finkielkraut. Ils ont lu des philosophes, ils ont lu des romanciers, et ils ne croient plus dans le fil continu du temps, parce que peu de romanciers, et à commencer par ceux qui vous sont chers, y croient également.
Pierre-Nora, et puis j'aurai une autre question.
Je pense d'abord que, si vous voulez, la discontinuité, elle est liée à une rupture, je dirais, de la temporalité classique. La temporalité classique dont les historiens étaient le reflet, simplement, consistait à passer du passé à l'avenir par le présent. Et les historiens étaient ceux qui, au fond, choisissaient dans le passé ce qu'il fallait pour affronter l'avenir. Donc, dans la mesure même où on préparait cet avenir, on savait quel type d'histoire il fallait faire. Une histoire révolutionnaire, une histoire restauratrice, une histoire du progrès, des progrès scientifiques ou des progrès moraux, ce qui, a très longtemps, était quand même l'inspiratrice d'une histoire à la Michelet, c'est qu'il y avait un progrès à travers le républicain. Alors, je crois que cette unité temporelle profonde de la conscience de cette continuité est atteinte. Ça ne veut pas dire qu'elle est morte, mais elle est atteinte. C'est-à-dire qu'entre l'avenir, qui est totalement incertain, dont nous ne savons pas ce qui va être, et qui même, par l'apocalypse climatique, devient l'anéantissement absolu et la vengeance de la nature, en quelque sorte, et un passé devenu lui-même très lointain, très obscur, très globalisé, c'est le présent et la catégorie du présent qui est devenue une forme d'intelligibilité de nous-mêmes. Et c'est cet avènement d'une conscience du présent qui génère un attachement à la mémoire et une naissance et une forme d'hégémonie de la mémoire par rapport à l'histoire continue. Or, la mémoire, par définition, est une instance de discontinuité.
Oui,
voilà,
c'est vrai.
C'est pour ça que je reviens à la discontinuité. Alors, comme ça. Pour les historiens, ce n'est pas une doctrine, un parti pris, un concept, c'est une forme d'adaptation spontanée. Et d'autant que l'histoire elle-même apparaît comme une construction de la mémoire. Bouvines, la bataille de Bouvines-Duby, par exemple, l'a assez montré. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ou du moins l'importance que l'histoire lui a donnée n'est pas exactement conforme aux événements. Eh bien, toute l'histoire est cela. Or, oui, les historiens, du coup, sont amenés à faire un autre travail que qu'ils avaient dans le récit continu.
D'accord, peut-être. Mais vous êtes tous les deux historiens.
L'historiographie, c'est la restitution de la continuité dans le discontinu.
D'accord.
Vous seriez d'accord.
Alors,
avec peut-être. Je serais d'accord.
Bon, mais êtes historien, et moi je ne le suis pas, mais je pense que nous avons en commun, je crois pouvoir ne pas m'avancer en disant que nous avons en commun une admiration très grande pour Marc Bloch. Et l'étrange défaite est pour moi un livre de chevet, et je vais citer une nouvelle fois ce passage de l'étrange défaite. Est-ce qu'il fait sens aujourd'hui pour les citoyens français, quelle que soit leur origine, je le répète, quelle que soit leur origine, et pour les historiens que vous êtes, il y a deux sortes de Français qui ne comprendront rien à l'histoire de France, ceux qui ne sont pas émus par le sacre de Reims, ceux qui refusent de vibrer à l'évocation de la fête de la Fédération. Et voilà. Alors, la vis, d'accord, mais Marc Bloch aussi, il faut le passer au profit et perte ?
Mais non, bien sûr que non. C'est une ancienne qu'on nous resserre là depuis 10 ans avec, là pour le coup, continuité, une malheureuse continuité. Bien sûr que non, bien sûr que Marc Bloch est notre contemporain. Voilà, parce que il est plus que le héros fondateur et éponyme de l'histoire en France, il est véritablement une source d'intelligibilité et de compréhension pour la discipline historique elle-même. Mais enfin, Alain Finkielkraut, vous ne pouvez pas, à partir de cette citation sans cesse assénée, culpabiliser une profession entière. Voilà,
Je ne culpabilise personne, j'interroge.
Eh bien, ce qu'on en fait, par exemple, vous moquez l'article de Dominique Borne qui dit, ben voilà, pour intéresser les élèves aujourd'hui, je vais tenter de reprendre le passé à partir de son affleurement mémoriel dans le présent. Mais enfin, essayez de faire autre chose. Vous citiez Jean-Paul de Moule, c'est la démarche archéologique par excellence. On ne peut pas dire que l'archéologue ne respecte pas le passé. Simplement, il sait qu'il y vient en décapant, justement, les couches du présent.
Ne moquais personne, surtout pas Dominique Borne, mais je m'interrogeais sur Marseille.
Pour faire un peu de provocation, depuis le début de l'émission, vous avez cité Renan pour commencer, Lavis longuement pour continuer, Marc Bloch pour finir. Je vous dirais que, évidemment, ce sont trois noms que Boucheron ou moi vénérons, dont nous sommes totalement nourris à beaucoup d'égards, et que c'est au nom même de cette intériorisation de ces trois noms que nous disons qu'aujourd'hui, ni Renan, ni Lavis, ni Marc Bloch ne sont un véritable catéchisme. Nous sommes devant une situation neuve que le Renan en nous, le Lavis en nous et le Marc Bloch en nous devons essayer d'affronter.
Très bien, écoutez, ça c'est une conclusion magnifique et je vous remercie tous les deux, Pierre Nora et Patrick Boucheron. Alors Pierre Nora, je rappelle que vous avez publié aux éditions Gallimard Recherche de la France et puis Patrick Boucheron, pour une histoire monde, avec Nicolas Delalande, aux Presses universitaires de France. Et je voudrais aussi citer votre très beau livre, Conjurer la peur, Sienne 1338, aux éditions du Seuil. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La démocratie a-t-elle besoin de limites ?» Mes invités seront Cynthia Fleury et Dominique Schnapper. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandre Fougeron, à la technique aujourd'hui Xavier Lévesque, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.